Le journal était signé Mathieu Laurent, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Attention, travail difficile pour journalistes, couvrir l'actualité au Proche-Orient. Comment parler d'un conflit où bien souvent la passion l'emporte sur la raison? Il n'y a qu'à voir par exemple le nombre de réactions, de mails, de commentaires que peut susciter un reportage, une phrase, une image, un mot diffusé sur les antennes ou publié dans les journaux. C'est un conflit avec des périodes très aiguës comme aujourd'hui, avec des attentats, des massacres et des images de films d'horreur. La guerre de Gaza l'été dernier a entraîné, on s'en souvient, des manifestations en France qui ont dégénéré. Les journalistes font leur travail et remplissent leur devoir d'informer dans un contexte où les nerfs sont à fleur de peau. Les journalistes témoignent le plus honnêtement possible dans un conflit qui n'avance pas, qui reste dans une spirale de violence, d'attaques et de ripostes et de représailles. La situation au Proche-Orient aujourd'hui est la même qu'il y a 5 ans, la même qu'il y a 10 ans, la même qu'il y a 20 ans. Comment en parler? Comment travaillent les journalistes sur le conflit israélo-palestinien? Pour en débattre ce matin dans le secret des sources sur France Culture, Philippe Agré, chef du bureau de l'AFP à Jérusalem de 2009 à 2014. Bonjour Philippe Agré.
Bonjour Frédéric.
Olivier Ravanello, chroniqueur de politique étrangère sur iTélé. Bonjour.
Bonjour.
En direct de Jérusalem, Charles Anderlin, correspondant de France 2, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le conflit du Proche-Orient, dont le dernier livre Au nom du Temple est paru au Seuil. Bonjour Charles Anderlin, vous nous entendez?
Bonjour.
Bien?
Impeccable, et vous?
Parfaitement également. Et également Guidon Kutz, correspondant à Paris de Kol Israël et du journal Mariv. Bonjour monsieur.
Bonjour et bonjour aux confrères présents dans cette émission.
Alors Guidon Kutz, vous êtes en direct avec nous de Vienne puisque vous suivez un dossier très important, les négociations en ce moment en Autriche sur le nucléaire iranien. Nos deux experts de l'émission, Mariette Darigrand, notre sémiologue toujours très attendu dans le secret, bonjour.
Bonjour.
Et Thibault Henton, lui aussi très attendu pour les images et le multimédia, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy, avec à la console en régie Léa Le Foll. Le clin d'œil de Yacine Bouzard en fin d'émission. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Nous reviendrons aussi sur cette attaque ce matin dans une synagogue de Jérusalem. Deux Palestiniens armés ont tué 4 Israéliens avant d'être abattus par les services de sécurité. Alors va-t-on vers une escalade de la violence au Proche-Orient? Notre correspondant Charles Anderlin est en direct.
Des cris, puis une série de coups de feu. Des policiers casqués arrivent en renfort. Deux hommes sont retranchés à l'intérieur de cette synagogue. Ils viennent de commettre un attentat. Les policiers israéliens essayent de les déloger. Les forces de sécurité israéliennes investissent le quartier. Les deux assaillants palestiniens sont abattus. Leur corps gît au pied du bâtiment. À l'intérieur, les premiers secours découvrent une scène d'horreur. Les corps de 4 fidèles, tués par balles ou à l'arme blanche, sont sortis de la synagogue. Les auteurs de l'attaque sont deux jeunes palestiniens, originaires de Jérusalem-Est.
Nous retrouvons notre correspondant Charles Anderlin sur place. Charles, bonjour. Doit-on craindre une escalade de la violence au Proche-Orient?
Voilà, extrait du journal de 13h de France 2, mardi dernier, 18 novembre, après la tuerie dans la synagogue d'Arnof à Jérusalem. Alors Charles Anderlin, lors de votre direct dans ce journal, on vous a entendu au début de votre intervention, vous nous expliquez pourquoi la situation ne peut qu'empirer. Est-ce que dans votre travail en reportage, Charles Anderlin, vous et les autres journalistes, est-ce que vous prenez des mesures de sécurité particulières aujourd'hui que vous ne jugiez pas utile de prendre avant l'été dernier par exemple?
Écoutez, moi
moi, je suis un cas un petit peu particulier parce que j'ai subi un certain nombre de menaces et, au fil de ces, en fait, ces 14 dernières années. Je n'ai pas pris de mesures de sécurité spéciales. Il y a bien eu, au moment de la guerre à Gaza, des pages Facebook où on a proposé de me flinguer purement et simplement. On a pris quelques mesures de notamment installer un système d'alarme à la maison, mais au contraire d'un confrère du quotidien Haaretz, du quotidien israélien qui lui est obligé de se déplacer avec des gardes du corps, je n'ai pas de garde du corps et je n'ai pas l'intention d'en avoir.
Et est-ce que par exemple vous avez été obligé de déménager à cause de ces menaces, Charles ?
Non, pas en tout cas ces dernières années. Au début de la seconde intifada, à la suite de la diffusion de mon reportage sur la mort d'un enfant palestinien en fin septembre 2000, nous n'avons pas déménagé immédiatement, mais lorsqu'il s'agissait de changer d'appartement, nous avons effectivement décidé de prendre plutôt un logement dans des étages.
Et aujourd'hui, toute cette histoire est derrière vous, derrière votre famille ?
Écoutez, dans mon esprit, oui, il y a encore régulièrement des gens qui m'insultent ou profèrent des menaces, mais pour moi, cette affaire est largement du passé.
Alors, Philippe Agré, ancien chef du bureau de l'AFP à Jérusalem pendant 5 ans, de 2009 à 2014, vous rentrez tout juste le mois d'août, vous êtes rentré en France au mois d'août dernier. Vous travaillez avec des journalistes palestiniens au bureau de l'AFP, vous gériez une cinquantaine de personnes, des journalistes israéliens et des journalistes palestiniens. Comment ça se passe dans des moments de grande tension comme cela pour le chef du bureau ?
Ça se passe bien, heureusement ça se passe bien. L'AFP, en Israël et dans les territoires palestiniens, c'est un bureau à Jérusalem, le bureau le plus important. Il y a également un bureau à Gaza, avec journalistes, photographes, vidéastes, techniciens palestiniens, un petit bureau à Ramallah et un réseau de correspondants, journalistes ou photographes en Cisjordanie. Et en effet, c'est une équipe multilingue, c'est une équipe avec des journalistes expatriés et des journalistes locaux. J'insiste énormément toujours sur l'importance des journalistes locaux, journalistes israéliens, dont des journalistes franco-israéliens, et des journalistes palestiniens. Également des journalistes français. Me dire que c'est une équipe plurielle, c'est une équipe avec diverses sensibilités, diverses opinions. Et l'enjeu et le challenge est de faire travailler cette équipe ensemble, et on y arrive. Mais les journalistes de l'AFP travaillent pour l'AFP, ils travaillent pour faire une dépêche, faire une photo, faire une vidéo. Nous travaillons tous ensemble et nous sommes des professionnels.
Alors, les réseaux sociaux dans le conflit au Proche-Orient, Charles Anderlin nous en a parlé, vous nous expliquez également dans le reportage qu'on a entendu au début de l'émission sur France 2, que la haine entre les deux populations est attisée par Internet au point qu'une simple rumeur peut dégénérer en manifestation très violente. Alors je vais prendre un exemple côté israélien, mais on peut trouver le même exemple côté palestinien. C'est après l'assassinat de 3 jeunes Israéliens près du bloc de colonies de Gush Etzion, au sud de Jérusalem et de Bethléem, c'était en juin dernier. Une page Facebook a été créée sous le titre « Tue un Palestinien chaque heure, jusqu'à ce que les adolescents soient revenus. Chaque heure, nous tirerons sur un terroriste. » Alors, selon le Mariv, en quelques heures, cette page a rassemblé 10 000 personnes, 10 000 likes. Gideon Kutz, donc correspondant du Mariv, est-ce que les journalistes ont pris l'habitude aujourd'hui, au Proche-Orient, d'aller regarder sur Internet sur ce qui se passe et de voir cette guerre qui se livre sur Internet. C'est une guerre tout aussi violente.
Oui, mais je pense que les journalistes français auraient bien fait d'aller sur Internet pour voir ce qui se passe en France. Et en ce qui concerne les différents blogs et sites antisémites ou anti-juifs ou anti-israéliens, donc vous voyez, et ça se passe partout, il y a des fous partout qui écrivent ces énormités. Je dis cela pour relativiser un peu, parce que vous voyez, nous choisissons aujourd'hui, vous choisissez un cas.
Qui a beaucoup marqué, dont on a beaucoup parlé. Hein.
Oui, bien sûr, mais il y en a d'autres cas, c'est-à-dire c'est
bien
pas
sûr,
les cas
bien sûr.
Où les journalistes sont menacés. Les cas typiques où les journalistes sont menacés, c'est la bande de Gaza par le Hamas.
Charles Anderlin, vous vouliez réagir ?
C'est un problème qui touche d'abord les journalistes eux-mêmes. Il suffit que tel ou tel site d'un grand média étranger ou d'une grande chaîne commettent une erreur en titrant un reportage ou autre, dans les heures qui ont suivi le massacre de la synagogue à Jérusalem, on a eu, je crois que c'était CNN, qui a titré « Massacre dans une mosquée ». Ça, évidemment, c'était plutôt surprenant. D'autres ont titré « Attention, massacre dans une synagogue, 6 morts, 4 Israéliens, 2 Palestiniens ». Alors, il y a eu des réactions ici au niveau des responsables du ministère des Affaires étrangères qui ont accusé la presse étrangère dans son ensemble d'encourager le terrorisme. Notre association de la presse étrangère a protesté auprès des affaires étrangères israéliennes. C'est-à-dire, le problème n'est pas seulement les réactions, et il y en a, des journalistes étrangers. Ces jours-ci, on a reçu des menaces de mort. Ici, on sait, ça vient de l'extrême droite. Et en général, c'est plutôt des grandes gueules et ça ne va pas très loin. Néanmoins, il faut faire attention. Mais il y a aussi un problème de nos confrères eux-mêmes, qui parfois, tout simplement, soit que c'est un assistant ou une assistante ou quelqu'un qui titre mal un reportage, et on se retrouve immédiatement accusé et l'opprobre tombe sur l'ensemble de la profession, l'ensemble des journalistes ici. Le problème dans cette région du monde, c'est que si vous ne faites pas attention à chaque élément de langage, si on ne fait pas attention constamment, vous risquez immédiatement d'avoir le ciel qui vous tombe dessus. Le ciel, ça veut dire les autorités israéliennes.
Alors, on va poser la question à Philippe Agré, mais d'abord, Olivier Ravanello, vous avez passé beaucoup de temps à Jérusalem et au Proche-Orient. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on filme, à ce qu'on dit.
Il faut faire attention, mais je pense qu'on est à un point où il faut aussi arrêter de faire attention. C'est-à-dire qu'il y a eu progressivement, j'ai pu m'en rendre compte de ma jeune expérience, une pression de plus en plus importante, en effet, des opinions. C'est devenu démultiplié avec les réseaux sociaux. Et la tendance quand même, notamment dans les médias de masse, comme la télévision, a été d'aller chercher un endroit de neutralité et où en fait on s'est mis à essayer de trouver le mot qui ne fâcherait personne. Mais qui finit aussi, ce mot-là, par ne plus vouloir rien dire. C'est-à-dire qu'on a un niveau de vocabulaire qui est tellement sec qu'on ne décrit même plus la réalité et qu'on ne décrit surtout pas ni une logique politique, ni une logique conflictuelle et qu'on ne donne aucun sens de compréhension. Je pense qu'aujourd'hui, il faut oser appeler un chat un chat. Il faut essayer de chercher l'honnêteté intellectuelle, mais la neutralité dans le choix des mots me semble être une impasse. Il y a un vocabulaire à utiliser qu'on utilise dans d'autres conflits. Il y a des grilles analytiques qu'on peut poser sur la politique du gouvernement israélien sans pour autant accepter l'idée qu'on puisse être contre Israël et encore moins l'idée qu'on puisse être antisémite. On peut critiquer le gouvernement Netanyahou comme on porte un regard critique sur la politique d'Obama, sur la politique de Merkel, sur la politique de n'importe quel gouvernement, sans pour autant faire passer des sentiments qui soient des sentiments agressifs ou des sentiments de haine. Idem sur l'autorité palestinienne, idem sur le Hamas, et d'accepter de susciter la réaction, c'est le seul moyen pour éviter le travers dans lequel on est, c'est-à-dire, ça fait 60 ans qu'ils se battent, on renvoie tout le monde dos à dos, et on finit par ne plus rien y comprendre, et c'est toujours cette guerre qui n'en finit pas.
Philippe Agré.
De fait, c'est un conflit qui doit être traité ou devrait être traité comme n'importe quel autre conflit. Il y a d'autres conflits dans le monde qui sont aussi tragiques, aussi consternants, aussi cruels. Et c'est un fait que ce conflit devrait être traité de façon comme un autre conflit. En ce qui concerne le vocabulaire, qui est un débat chargé, qui est un débat assez difficile, qui est un débat assez compliqué, il y a néanmoins des règles éditoriales que respectent, que suivent les grandes agences mondiales, l'AFP, Reuters, AP. Il est certain qu'il n'est pas non plus dans notre rôle de mettre de l'huile sur le feu. Et que donc chaque mot, chaque phrase, comme le disait Charles très très bien, Charles Enderlin, est quand même pesé, relu. Encore une fois, j'insiste énormément sur les règles d'agence. Un journaliste d'agence, par exemple, n'envoie pas sa dépêche directement au client. Il y a un système de relecture, il y a un système de desk. Les desks relisent, posent des questions, demandent des compléments. Et enfin, il y a, ce qui est très important aussi, les corrections. On peut faire des erreurs. Il arrive d'être dans des situations de reportage ou des situations d'attentat où on ne voit pas, on ne peut pas voir tout de suite ce qui se passe, où le tableau n'est pas clair parce que c'est un événement qui bouge. On est dans la compétition, on est dans la vitesse, on est dans le tweet et on a des techniques qui sont les techniques d'agence, les techniques de journaliste qui permettent de travailler. Et quand on fait une erreur, on la corrige.
Charles Enderlin.
Oui, alors écoutez, d'abord nous avons une chaîne de radio qui est très pro-Netanyahou, où en fait les journalistes n'ont pas le droit de dire territoire occupé, mais doivent dire effectivement territoire disputé. C'est I24 News qui diffuse en français, anglais et en arabe. Maintenant, c'est très simple. En Israël, on ne dit pas seulement territoire, mais d'ailleurs le langage officiel israélien, c'est pas la Cisjordanie, mais la Judée-Samarie. Voilà. Et lorsque, bien entendu, un journaliste étranger utilise le langage territoire occupé, comme d'ailleurs le veut la communauté internationale qui n'a jamais reconnu l'annexion ni de Jérusalem, ni d'un territoire conquis en 67 par Israël, eh bien on vous considère ici, eh bien écoutez, vous êtes de gauche, voilà. Mais le langage, ici, vous piège dès que vous commencez votre reportage.
Oui, c'est ce qu'on disait au début. Attention, travail difficile pour journalistes.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Thibaut Henton, pour le multimédia, alors vous avez regardé comment on s'informe sur les réseaux sociaux quand on est israélien et palestinien.
Oui, en ligne plutôt quand on est pro-israélien et pro-palestinien. Alors on tombe la plupart du temps sur ce qu'on était venu chercher. En fait. C'est-à-dire que les réseaux que fréquentent pro-palestiniens et pro-israéliens ont tendance à renforcer les croyances préexistantes des uns et des autres en privilégiant telle et telle source jusqu'à n'avoir plus qu'un son de cloche, toujours le même. C'est ce qu'on appelle un effet de bulle ou filter bubble, particulièrement puissant sur un média social comme Facebook où les algorithmes filtrent et personnalisent les informations. C'est ce qu'a observé Gilad Lotan au moment de l'intervention à Gaza cet été à partir de données récoltées sur différents réseaux sociaux côté israélien, surtout les roquettes et les tunnels du Hamas, côté palestinien, les destructions et les massacres d'enfants. Et au milieu, même s'il n'est pas question d'équilibre entre Israël et la Palestine, il y a une exception à ce tableau, c'est le quotidien israélien Haaretz, aussi lu d'un côté que de l'autre. Ce qui signifie qu'une info ou une analyse issue de Haaretz a plus de chances d'être partagée, et ce sur l'ensemble du spectre des pros et des anti. Sur ce conflit-là, en tout cas, un seul média, une même source, parvient davantage à réunir ceux qui divergent que la multitude de sources brassées par les médias sociaux.
Le ministre israélien Avigdor Lieberman a déclaré que votre pays, la Suède, ne saisit pas la complexité des relations au Moyen-Orient. Elles sont bien plus compliquées, dit-il, que le montage d'un meuble IKEA. Comment réagissez-vous ?
Je pense qu'il s'agit là d'un trait d'humour, mais je serais très heureuse de lui envoyer un kit de meubles IKEA. Il constatera que, pour le montage, il aura besoin d'un partenaire. Il faut coopérer et avoir de bonnes instructions. Et je pense que nous disposons de tous ces éléments si nous voulons les utiliser également dans le conflit au Proche-Orient. Pour parvenir à la paix, il faut que les deux parties discutent de l'avenir autour d'une table.
Extrait d'une interview donnée par la ministre suédoise des Affaires étrangères, Margot Wallström, le 31 octobre dernier, à une télé américaine. La source n'est pas précisée, traduction assurée par Véronique Reberotte et Agathe Mahué. C'est donc après la reconnaissance par la Suède de l'État palestinien, premier grand pays d'Europe de l'Ouest à reconnaître la Palestine. Et donc cet échange entre le ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, et Madame Wallström, à propos donc de meubles IKEA et de la paix au Proche-Orient, a été très remarqué. Il y a encore un peu d'humour au Proche-Orient, malgré cette guerre et cette violence. Charles Enderlin, cet échange illustre bien la position du gouvernement israélien C'est-à-dire, nous sommes seuls, le monde ne nous comprend pas, nous, Israéliens, nous avons raison, et en règle générale, les journalistes sont contre nous. C'est un peu le sentiment que l'on a.
Bah écoutez, je dis toujours que la communication israélienne marche formidablement. Elle est extrêmement efficace en Israël et dans certaines communautés juives. C'est le message que passent régulièrement les proches de M. Netanyahou, qui est diffusé d'ailleurs par son journal, le journal qui est financé par un milliardaire américain très à droite, Israel Hayom, distribué gratuitement, qui est un des plus importants en Israël. Vous avez parlé du quotidien Haaretz. Oui, le quotidien Haaretz, c'est très bien, mais en fait, il est très certainement minoritaire au niveau de la presse israélienne. Il faut voir ce que dit la presse de droite, le commentateur de droite, les chaînes de télévision, où c'est essentiellement une espèce de consensus national qui règne. Par exemple, pendant l'affaire de Gaza, les chaînes internationales, nous, France 2 et tout le monde, ont veillé à diffuser un reportage côté israélien, un reportage côté palestinien. Ben écoutez, le résultat, ça a été que du côté palestinien, on a eu les images épouvantables. Et puis côté israélien, en raison de l'excellente défense de la passive israélienne, côté israélien, ce n'était pas du tout aussi sanglant, aussi dur. Il y a eu nécessairement une espèce de déséquilibre dans l'image qui sortait. Et puis le résultat, ça a été pour le public israélien, ben voilà, regardez, le monde ne nous comprend pas. Et c'est d'ailleurs, vous savez, hier, l'autre soir, j'ai fait un duplex pour France 3. Et bien, curieusement, le caméraman israélien qui filmait m'a dit « Le monde, finalement, est contre nous. Regarde, les Espagnols reconnaissent l'État palestinien. » C'est l'ambiance qui règne en Israël. Je crois que s'il y a un véritable problème, c'est là qu'il se trouve.
Sur le sentiment des journalistes suspecté d'être pro-palestinien, Philippe Agré, par les autorités israéliennes. Comment avait été surnommé l'AFP à un moment donné ?
L'Agence France-Palestine, toujours. Et ce qui est parfaitement stupide, c'est parfaitement stupide dans la mesure où, dans une équipe de 40 journalistes, photographes, vidéo. Chacun a sa propre opinion, chacun a son propre jugement. On ne peut pas demander à un photographe palestinien de Naplouse d'avoir absolument la même opinion qu'un journaliste israélien qui vit dans une colonie ou qui vit à Jérusalem. Et néanmoins, on travaille ensemble. Et on arrive à faire, je crois, des dépêches, des photos et des vidéos qui sont objectifs, qui tendent à l'objectivité. Il est illusoire de penser qu'il y a un journaliste derrière son un cerveau derrière sa console qui est en train de concocter une dépêche anti-Israël. Ça, c'est absurde, puisque nous travaillons ensemble.
Olivier Ravanello, on peut dire qu'en reportage en Israël, on est de toute façon totalement libre. Une fois qu'on a les accréditations...
Totalement libre. C'est un des pays où vous pouvez travailler aux côtés de l'armée en période de guerre, comme nulle part ailleurs. Tout est accessible, tout est dangereux, mais c'est normal. Personne n'est là pour vous protéger, c'est la guerre. Vous prenez les risques que vous voulez, vous les assumez. Mais vous êtes au contact immédiat. Il n'y a pas de logique, comme les Américains, d'équipe embarquée. Il n'y a pas de logique de mise à distance. Et quand bien même la petitesse du territoire rendrait cela absolument impossible. On a vu des images édifiante au moment du conflit de Gaza, où dans certains villages qui étaient près de la frontière, certains s'étaient mis sur des hauteurs avec des jumelles et regardaient ce qui se passait en face, simplement à 5 km. Donc vous, de toute manière, quand bien même Israël voudrait mettre à distance les journalistes, ce ne serait pas possible, mais ça n'est pas non plus dans les gènes de ce pays, dans la culture de ce pays. C'est un pays où le débat public a lieu, même si, en effet, Charles a raison de souligner que Haaretz a moins d'audience qu'auparavant. C'est un pays où il y a une pluralité, où la critique envers le gouvernement est extrêmement plus forte en Israël qu'elle ne peut l'être à l'étranger. Vous lisez des choses en Israël que certains journalistes à l'étranger n'oseraient pas formuler. Donc il y a cette émulation. On est toujours frappé lorsque vous allez à Tel Aviv, par exemple. Vous avez une ville qui, dans certains quartiers, est d'une créativité, d'une inventivité, d'une ouverture sur le monde. Et puis vous basculez à Jérusalem, qui est en train d'être phagocytée par l'obscurantisme religieux d'un côté ou de l'autre. Tous ces visages d'Israël, il faut les rendre et il faut rendre aussi justice à ce pays qui ne mérite pas qu'on lui impose et que même les gens qui le défendent imposent une seule voix. Ça n'est pas, encore une fois, c'est injuste par rapport à la société israélienne et pour tous ceux qui ne sont pas derrière Netanyahou, le doigt sur la couture, que d'imaginer qu'il faut choisir son camp camarade, et où tu es avec Israël et tu dis que tout ce que fait Netanyahou c'est bien, ou tu la boucles, ou alors tu es du côté du Hamas et des terroristes.
Philippe Aguirre, vous voulez intervenir ?
Il est bien en effet, oui, il est bien en effet que nous puissions aller à Gaza, et donc pour aller à Gaza, on passe par un checkpoint, ce qui s'appelle Erez, que vous connaissez bien, Frédéric. Et je dis qu'il est très très bien que nous puissions aller régulièrement, je suis allé très souvent, à Gaza, travailler avec le bureau et faire le travail normal. Je serais un petit peu moins enthousiaste sur certains aspects de la répression des journalistes, parfois des journalistes palestiniens notamment, lors des manifestations du vendredi. Toutes les grandes agences et toutes les grands, les grands médias ont eu des problèmes avec des photographes blessés. Mais néanmoins, il est vrai qu'il y a une liberté de travailler. Et quelque chose que je voulais dire aussi qui est important, c'est que nous sommes quotidiennement, plusieurs fois par jour, en contact avec les porte-paroles de la police, de l'armée, des affaires étrangères, du Premier ministre, côté palestinien, de l'autorité palestinienne, côté à Gaza, Hamas, djihad islamique. Ce sont des gens à qui l'on parle tout le temps.
Je voudrais intervenir là.
Oui, Charles.
Oui, alors écoutez, au niveau de cette description idyllique du travail de la presse, il faut quand même rappeler que pendant la guerre à Gaza, le responsable de la politique étrangère de la deuxième chaîne israélienne, qui est quand même celle qui fait l'audience la plus importante, a été menacé. L'extrême droite a diffusé son portrait coiffé d'un keffieh sur un poster qui a eu énormément de succès de la brigade juive du Hamas. Le principal commentateur de cette même chaîne, un héros de la guerre d'octobre 73, parce qu'il a posé quelques questions qui gênaient, a eu une manifestation de 200 personnes devant la chaîne au cri de « dommage que tu n'as pas brûlé dans ton char ». Les choses ne sont pas toujours faciles. Il y a de plus en plus une campagne contre la presse. Guidon Levy se déplace avec des gardes du corps. Il y a eu des périodes effectivement absolument idylliques, mais il y a eu aussi des périodes extrêmement difficiles. Et autant que je me souvienne, l'AFP a eu son lot de menaces également. Mais les choses ne sont pas aussi simples et aussi roses qu'on vient de l'entendre.
Non, elles sont en effet pas roses. Et j'ai parlé des photographes, notamment palestiniens, qui, chaque vendredi, lors des manifestations à Naplouse ou à Hébron, se retrouvent dans des situations difficiles, voire arrêtés, détenus plusieurs heures, et sur lesquels il faut intervenir, voire blessés.
Philippe, on vient d'avoir une nouvelle série de ce genre ici.
Ouais. صغير بعالم كبير تايه مش عارف اش بيصير يا دوب فتحت عينك طمعت يا دوب فتحت قلبك توجعت يا دوب انضميت إلنا شفتنا مفرقين يهود مسيحية مسلمين ولا واحد بده يتفهم غيره كل فقر انه احسن من غيره بس هو يستاهل الجنة وحاليا كلنا معيشين بعضنا بجهنم امن انت غير عنا قلبك نضيف من جوا ترضاش للي برا يوسخولك اياه طالب حياة كلها مساواة اذا حد قالك اكره قول له لا انا ما بكره حد اطفالي اليوم بدنا نغير الغد كتير كتير طويلة فيها تقابل ناس قلوبها مش نظيفة تحاول تحسسك انها اعلى منك واذا هي بتفكر هيك يعني هي اوطى منك انت مش ارهاب انت مش حيوان انت انسان اللي مخرب اسمك اشي اسمه سياسة تاخد المنح منك لانها طمعانة في ناس معك ماشية لانها حزانة عالعرب المسكين بتكاش هالمساعدة كلمة مسكين طلعها من راسك المسكين بسكوت انت احكي اللي بحساسك تسحيش فيش فيها عيب احنا وقعنا انت وقع
واقف عجيك احنا بكينا انت امسح دموعنا يا لحمي ودمي ارفعوا لنا روسنا.
Le groupe de hip-hop Dame, groupe arabe-israélien, et l'extrait que nous venons d'entendre s'intitule Rayer Boukra, change de main, change d'avenir. Marie Darigrand, notre sémiologue, et c'est vrai Mariette qu'il faut faire très attention aux mots que l'on emploie quand on parle de ce conflit.
Bah écoutez, on sait bien qu'il y a une différence entre l'information et la propagande. Les journalistes le savent très bien. Tout ce que vous avez dit là jusqu'à maintenant le prouve. C'est un vrai souci. Donc on est devant un langage très piégé, car il est beaucoup plus connotatif que dénotatif. C'est-à-dire il dit moins le réel qu'il n'ouvre des imaginaires. Alors une des questions que ça pose, je trouve aujourd'hui, c'est peut-être moins du point de vue est-ce que les journalistes peuvent être instrumentalisés par l'un des deux camps, que plutôt, est-ce qu'ils n'apportent pas, par analogie finalement, en restant très vague, effectivement, en ne disant pas nécessairement la réalité de la politique réelle sur le terrain, est-ce qu'ils ne risquent pas de nous entraîner dans un imaginaire très mythique, où par exemple des mots génériques comme violence, hein, ça a été dit à propos du dernier attentat contre la synagogue du quartier Arnoff, par exemple, flambée de violence, ou spirale de la violence ou violence intercommunautaire. Ce sont des expressions qui pourraient s'appliquer à autre chose qu'au conflit israélo-palestinien et en particulier à certains endroits, y compris en France. Donc quand on est dans ce type d'imaginaire, on perd le réel, on perd la précision politique et on ouvre l'anxiété, l'angoisse et les amalgames. Alors pourquoi vous posiez la question, est-ce que ce conflit devrait être traité comme d'autres ? Une hypothèse d'explication, c'est que, et cette analogie imaginaire le prouve, nous sommes devant quelque chose qui touche profondément, disons, l'inconscient collectif occidental. Pourquoi ? Bien sûr, parce qu'on est dans le berceau de l'humanité au sens occidental du terme. Et donc on a trois ingrédients très, très forts. Un lieu culte, et si ce n'est pas Israël, c'est encore plus l'esplanade. Si ce n'est pas l'esplanade, c'est le Saint des Saints. C'est Jérusalem, c'est le Saint des Saints, sur le plan imaginaire et symbolique. On est dans un temps complètement mythique. Vous l'avez dit, c'est de l'actu, mais de l'actu récurrente qui revient peut-être comme il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et puis, surtout, on est sur des personnages archétypaux qui peuvent être dans l'un ou l'autre camp. L'enfant innocent, le guerrier sans peur et sans reproche, sont des personnages qui peuvent être dans l'un ou l'autre des camps et qui, si vous voulez, puisque justement les journalistes ont la prudence, voire certaines formes d'autocensure, on le sent bien, sont nécessairement réactivés. C'est l'imaginaire qui prend le pas lorsque le vocabulaire du réel est piégé.
Les mots que l'on emploie ou que l'on n'emploie pas. Olivier Ravanello, vous nous disiez, on est un peu neutre, on ne dit pas vraiment les choses, on ne nomme pas vraiment les choses.
C'est une tendance contre laquelle il faut lutter, parce qu'en effet, on finit par avoir des réactions justifiées d'ailleurs de l'opinion publique qui nous regarde en disant « mais vous ne dites pas les choses, donc pourquoi est-ce que vous ne les dites pas ? Vous subissez des pressions, vous êtes instrumentalisé, vous n'êtes pas honnête. » C'est tout ça qui est véhiculé derrière. Puisqu'au contraire, dans tous les autres domaines, dans tous les autres conflits, la parole est de plus en plus libre, on éditorialise de plus en plus, les prises de position à l'emporte-pièce, on en entend à longueur d'antenne, d'ondes et d'émissions de télévision. Mais quand on se mettrait à parler d'Israël et de Palestine, d'un coup, il y aurait une sorte de tétanie. C'est ça qui n'est pas possible. Mon premier réflexe au moment a été de ne plus regarder ni ma page Facebook, ni mon compte Twitter. Ça fait 2 mois, j'ai commencé même avant l'été, au moment de la guerre, de la nouvelle offensive dans la bande de Gaza. Parce que ce que vous lisez est tellement haineux que ça finit par vous toucher, et que de toute manière, ce monde-là, je le considère comme un monde virtuel. Donc j'attends que quelqu'un me croise dans la rue et me dise « Monsieur, je n'ai pas aimé ce que vous avez dit », ce qui m'arrive, et on engage le dialogue. Mais d'essayer de trouver un retour d'audience ou de qui me regarde, qu'est-ce qu'on pense les gens sur les réseaux, sur cette question-là, c'est absolument impossible parce qu'au contraire, ça va vous tétaniser. Donc il faut fermer les écoutilles et faire son boulot honnêtement.
Oui.
Peut-être mettre les pieds dans le plat, le mot autour duquel on tourne, c'est terrorisme. Il faut être précis et conscient
terrorisme,
que quand...
résistance.
Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise terrorisme de manière très facile. Ouais. Mais il faut être conscient de la portée de ce mot. Un acte, à mon sens, peut être qualifié de terroriste. L'acte en lui-même, la volonté de faire peur, de terroriser. De qualifier un mouvement de terroriste, c'est par définition nier sa revendication politique. S'il est terroriste, le message politique qu'il porte n'est pas audible. Nelson Mandela a été qualifié de terroriste à un moment donné. L'OLP a été qualifié de terroriste et Yasser Arafat aussi avant d'être... Donc, le terroriste, c'est celui avec lequel, pour l'instant, vous ne voulez pas parler. Mais ça n'est pas une définition absolue, contrairement à l'idée qu'on voudrait nous faire passer.
Philippe Agré.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Olivier. Bon, déjà, dans une agence de presse, à l'AFP, on n'est pas dans l'éditorial. On fait tout à l'AFP, sauf de l'éditorial. On fait du reportage, on fait de l'analyse, on fait de l'éclairage, on fait du, tout ce que vous voulez, des interviews, mais on ne fait pas d'éditorial. Donc déjà, on ne va pas s'engager dans un pour et contre. Ensuite, on n'emploiera ni le mot terroriste, ni le mot résistant. Sur des juifs extrémistes, on a parlé de juifs extrémistes plutôt que de juifs terroristes. Je préfère que l'on soit précis dans les mots, parler d'un membre d'un groupe armé, je préfère parler d'un paramilitaire, je préfère parler dans certains cas de combattants, voilà, plutôt que de mots qui sont chargés et qui ne... Et ce qui est important aussi, je trouve, rapidement, c'est que l'AFP écrit en 6 langues. Le plus gros débat a lieu en français. On n'a pas ce débat avec des journalistes anglophones de l'AFP. On n'a pas ce débat avec les journalistes. On l'a un tout petit peu, mais on l'a beaucoup moins qu'en français. C'est intéressant pour la sémiologue, je trouve.
Le dernier attentat qui a eu lieu, la presse française n'a pas précisé tout de suite de qui il s'agissait, les victimes israéliennes. C'est la presse anglo-saxonne qui a immédiatement parlé des rabbins, qui a donné les mots, si vous voulez, de métier des gens. Dans la presse française, on a eu 2 Palestiniens 4 Israéliens. Donc exactement ce que vous disiez tout à l'heure, un langage sec qui ne dit pas le réel des choses. Donc ça, c'est quand même certainement spécifique à la presse française, une très grande méfiance vis-à-vis des connotations qu'elle peut soulever. Mais parfois, est-ce qu'il ne s'agit pas d'omettre un détail signifiant quand même?
Je ne sais pas, parce que nous, on écrit au même moment en anglais et en français.
Thibault Henneton, je me retourne vers vous. On parlait des mots employés, de terrorisme, de vidéo. Et c'est une vidéo que vous avez choisie, de propagande du groupe État islamique, et qui met en scène des Français, ou en tout cas des personnes qui brûlent des passeports français.
Et celui qui sait, comme vous avez m'écrit au Tarot, comme vous avez m'écrit à la démocratie et à la loi humaine, en faisant le hijra, aujourd'hui vous m'écroyez à ces Tawarit et à toute cette loi que nous a imposé ces Tawarit et à tous ces passeports que nous a imposé ces Tawarit.
Donc on quitte Israël-Palestine pour le groupe État islamique, avec cette vidéo où l'on observe un usage répété et assez inédit à ma connaissance du verbe « mécroire », lui-même lié à « mécréant », qui historiquement, je le rappelle, désignait les musulmans dans la bouche des chrétiens. Cette vidéo est intéressante à bien des égards. Propagande du groupe État islamique apparue mercredi avec ce message, je cite, « Pour tous les musulmans qui vivent encore en terre de mécréance, de la part de vos frères qui ont émigré, de vos frères français. » Avec, comme à chaque fois que paraît une vidéo via la plateforme multimédia Al-Hayat, celle du groupe État islamique, un grand soin apporté à la production, une excellente qualité d'image, des textes préparés qu'on dirait lus sur prompteur. Alors cette vidéo s'ouvre sur un synthé avec une question en anglais « What are you waiting for ?» Qu'est-ce que vous attendez? En fond, plusieurs passeports et au moins un permis de conduire français léché par les flammes. Alors plusieurs remarques. D'abord cette question « What are you waiting for ?» qui rappelle le « I want you for US Army », affiche archi-connue de l'oncle Sam avec son index pointé, utilisé par les États-Unis pendant les deux guerres mondiales pour recruter. Ensuite, ce geste lui-même qui consiste à brûler des papiers d'identité sans qu'on sache s'ils appartiennent vraiment à ceux qui s'expriment face caméra Kalachnikov en bandoulière. Brûler un passeport comme brûler un drapeau est d'abord un geste politique antinationaliste dont la portée dépend du contexte et de sa perception. Ici, dans le contexte français, ce geste résonne singulièrement après le vote à la quasi-unanimité sans vrai débat ni saisie du Conseil constitutionnel de la loi antiterroriste du 13 novembre. Nouvelle phase dans la mutation de nos démocraties obsédées par la sécurité. Cette loi vise notamment à prévenir le départ de djihadistes ou à faciliter leur interception à leur retour en France. En brûlant leurs papiers d'identité, ces djihadistes français veulent faire croire qu'ils sont libérés de la peur. Ils disent « Nous ne reviendrons pas, vous pouvez garder vos frontières et vos contrôles d'identité, continuer à suspecter les corps au teint de leur peau. Toutes ces frontières ici n'ont plus cours. » Le lendemain de la diffusion de cette vidéo de 7 minutes, le parquet de Paris annonçait ouvrir une enquête pour provocation à des actes de terrorisme en utilisant des services de communication, encore une qualification créée par la nouvelle loi du 13 novembre.
L'actualité à l'étranger cette semaine, nous allons à Moscou retrouver notre correspondant Marc Crépin. Bonjour Marc.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bonjour.
Alors est-ce que la presse russe a parlé cette semaine de l'attaque contre la synagogue à Jérusalem et de la situation au Proche-Orient ?
Oui, bien sûr. Tous les médias, sans exception, beaucoup de traitements, je dirais au moins identiques à ceux qui étaient les vôtres en France, mais sans doute avec un peu plus d'emphase, d'insistance. Et vous savez, il y a une raison à cela, c'est qu'il y a environ 1 million d'Israéliens d'origine russe en Israël, dont une grande partie sont d'immigration récente. Ceux qui ont donc fait leur alia conservent beaucoup d'amis ici, des parents, les échanges sont fréquents. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de cet attentat. On a cité, bien sûr, les déclarations de Mahmoud Abbas, celles de Benjamin Netanyahou, dont je vous rappelle qu'il joue un rôle très particulier dans la diplomatie russe et israélienne. Benjamin Netanyahou est toujours, par exemple, resté, disons, plutôt neutre à propos de la crise ukrainienne, à propos des sanctions. Il est extrêmement prudent dans sa relation avec le Kremlin. Alors, je vous disais que la presse russe en a parlé, Commerçante, le grand quotidien, qui insiste beaucoup sur les réactions de Netanyahou et qui estimait que cet attentat était de nature à provoquer une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Et de la même façon, on a aussi rapporté ce qu'a dit le porte-parole du Hamas à Gaza, Sami Abu Zoukri, une opération qui est une réaction normale. Ça a évidemment un peu choqué. J'ai remarqué qu'il y avait des commentaires sur les sites d'info. Dans les Izvest, il y a aussi beaucoup de news, des faits, pas d'analyse. Il faut dire que c'est un journal plutôt pro-Kremlin qui insiste beaucoup sur la condamnation de l'attentat par Vladimir Poutine, puisque Vladimir Poutine était hier en conseil de sécurité au Kremlin. Enfin, les sites d'information, je vous cite lenta.ru, c'est un exemple. Ils ont amplement évoqué l'événement et aussi rapporté, bien sûr, la préparation d'un attentat qui allait se commettre, semble-t-il, contre le ministre des Affaires étrangères, Lieberman.
Alors, et puis aussi, Marc, en Russie, une bonne nouvelle pour la liberté de la presse, puisque la radio Écho de Moscou garde son rédacteur en chef. Il sauve sa tête in extremis.
Oui, on craignait le pire pour cette radio emblématique, Écho de Moscou. Je vous rappelle, 5 millions d'auditeurs dans une bonne quarantaine de villes, même à l'étranger, à Chicago par exemple. Elle avait été créée au lendemain de la chute de l'Union soviétique. Comme des dizaines d'autres médias, les Russes étaient alors avides d'informations équilibrées. Mais pratiquement tous ces médias ont soit disparu aujourd'hui, soit été repris en main par le jeu des prises de contrôle de leur capitale, ou je dirais tout simplement de contrôle politique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un journaliste de Écho de Moscou, cet été, en reportage à Donetsk, avait eu l'audace de faire parler un témoin ukrainien qui défendait le point de vue de Kiev et non celui des séparatistes pro-russes. Et Gazprom Media, l'actionnaire majoritaire, a demandé sa tête, mais Venediktov, le rédacteur en chef, l'a refusé. Et l'étape suivante aurait dû être le licenciement cet après-midi même des deux hommes et aussi la restructuration de Echo, dont le pouvoir voulait faire une radio musicale. Mais les pressions, notamment internationales, ont permis d'éviter cela. Avant d'aller plus loin, je vous propose d'ailleurs d'écouter ce que pense Sergueï Boutman. C'est un des rédacteurs en chef et fondateur de Echo de Moscou.
Dans cette hystérie qui a commencé il y a un an, il y a surtout cette année, et surtout avec l'Ukraine, d'après la vision de l'administration, du gouvernement, il faut qu'on soit unanime. Et dans cette unanimité à la soviétique tout à fait totalitaire, être professionnel, être une radio d'information, être un média d'information, c'est très mal vu. Voilà. Nous ne sommes pas d'opposition, nous sommes professionnels. Et nous voulons rester professionnels, et c'est très mal vu. Il y a une certaine solidarité professionnelle, mais elle n'est pas suffisante. Il y a 15 ans, après la venue de M. Poutine au pouvoir, c'est la profession, c'est la conscience des journalistes qui a été menacée. Et la destruction de la profession de journaliste, c'était ça le but, et je pense que ce but a été accompli. Et notre profession est en danger, devient presque inexistante en Russie.
Voilà, Sergueï Boutman porte un jugement très sévère, mais je peux vous assurer qu'il est très réaliste. Depuis 2 ans, donc depuis le retour de Vladimir Poutine à la présidence, les médias indépendants ou critiques sont dans le collimateur. Il en reste 4, en fait, 4 rédactions, dont Écho de Moscou, une chaîne de télé, mais elle est privée d'opérateur et donc seulement visible sur Internet, un journal, Novaya Gazeta, un hebdo, Novoye Vremya, qui s'appelle aussi New Times. L'un et l'autre n'ont pratiquement plus plus d'annonceurs publicitaires sont au bord de la faillite parce que les annonceurs publicitaires auraient trop peur de déplaire au Kremlin.
Merci Marc Crépin en direct de Moscou. Le clin d'œil, inspiration libre de Yacine Bouzard.
S'il vous plaît.
C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire.
Juif. Arabe.
Vous vitupérez, pardon de le dire ainsi. Vous savez, votre jeu, il est flagrant. Votre jeu est flagrant.
Juif.
Juif. Vos propos sont insultants. Ou vous continuez vos propos, ou je vous inflige un rappel à l'ordre si vous continuez ces propos.
Mais excusez-moi, moi j'ai une petite réaction d'humeur parce que franchement, j'hallucine, quoi. Ça me fatigue, arrêtez, soyez un peu honnête.
Je demande au ministre de l'Intérieur de cesser. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Juif.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Arabe.
Arabe. Bon. Vas-y, vas-y.
Mes chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. Allez. Rien ne peut justifier la scène à laquelle nous avons eu l'occasion d'assister. Quel que soit le comportement qui ait pu être celui d'un membre de cabinet ou un autre, rien ne justifie qu'il puisse y avoir une espèce de descente avec une menace physique comme celle à laquelle on a assisté. Je vous le dis, si à un moment donné, nous, qui sommes ceux qui votons la loi, donnons l'impression que nous allons faire la justice ou même essayer de se venger nous-mêmes, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la responsabilité qui doit être celle que nous occupons dans cette émission.
La chanson « Juif, arabe, ensemble » de Philippe-Catherine Méléa, des débats musclés à l'Assemblée nationale. Voilà, merci à tous. L'émission touche à sa fin. Comment travaillent les journalistes sur le conflit israélo-palestinien ? Merci à nos invités. Philippe Agré, chef du bureau de l'AFP à Jérusalem de 2009 à 2014. Olivier Ravanello, chroniqueur de politique étrangère sur iTélé. On signale votre nouvelle émission. Vous, président, demain dimanche, aura pour thème « Faut-il reconnaître aujourd'hui un État palestinien ?» Philippe Agré, vous me faites un signe de la main.
J'engage vos auditeurs à aller voir le blog de l'AFP qui s'appelle « Le Making of ». Je pense que dans ce conflit, il y a beaucoup d'ignorance et beaucoup d'agressivité contre les journalistes viennent de l'ignorance. Et dans ce blog, ils apprendront comment...
Notamment un photographe a pris la photo.
Comment un photographe a pris la photo, comment tel événement a été passé. C'est très... Et vraiment, il y a des choses très intéressantes, je trouve.
Merci, un grand merci à Charles Anderlin, correspondant de France Télévisions à Jérusalem. Charles Anderlin, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le conflit au Proche-Orient et dont le dernier livre, « Au nom du Temple », est paru aux éditions du Seuil. Merci, grand merci à Guidon Kutz, qui était avec nous en direct de Vienne, correspondant à Paris, de Kol Israël et du quotidien israélien Mariv, le soir, l'un des plus gros tirages. En Israël, nos deux regards extérieurs qui nous ont accompagnés, Mariette Darigrand, notre sémiologue au secret des sources, et Thibaut Henton, notre chroniqueur connecté. Dans les coulisses de l'émission, ils sont indispensables, Mathias Mégy, Vincent Abouchard, pour la préparation et la réalisation du secret. Avec aux manettes Léa Le Foll, le clin d'œil de la semaine signé Yacine Bouzard que l'on vient d'entendre. Dans un instant, le journal de Mathieu Laurent suivi de répliques. Alain Finkielkraut reçoit Fethi Ben Slama et Elisabeth Roudinesco pour nous parler de l'héritage de Freud. C'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage et à la semaine prochaine.
Le problème dans cette région du monde, c'est que si vous ne faites pas attention à chaque élément de langage, si on ne fait pas attention constamment, vous risquez immédiatement d'avoir le ciel qui vous tombe dessus. Le ciel, ça veut dire les autorités israéliennes.
C'est un conflit qui doit être traité ou devrait être traité comme n'importe quel autre conflit.
Et la tendance quand même, notamment dans les médias de masse, comme la télévision, a été d'aller chercher un endroit de neutralité et où en fait on s'est mis à essayer de trouver le mot qui ne fâcherait personne, mais qui finit aussi, ce mot-là, par ne plus vouloir rien dire.